Actes des Apôtres, chapitre 8, première persécution de l'Assemblée, versets 1 à 3.
Lecture de la parole. Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'Assemblée qui était à Jérusalem. Et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes pieux emportèrent Étienne pour l'ensevelir et menèrent un grand deuil sur lui. Or Saul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons et traînant hommes et femmes, il les livrait pour être jetés en prison.
Lecture de l'étude. Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem. Et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes pieux emportèrent Étienne pour l'ensevelir, et menèrent un grand deuil sur lui, versets 1 et 2. L'ensevelissement d'Étienne est celui du premier chrétien mort martyr depuis la formation de l'Église. Des hommes pieux l'emportèrent et l'ensevelirent. Ils ne craignirent pas l'opprobre qui se rattachait à cette victime de la haine des hommes. Ce court récit nous dit ce que l'on a souvent remarqué dès lors, que l'enterrement d'un chrétien porte, en général, quelque chose des caractères de sa vie. Il convenait que ce fussent des hommes pieux qui rendissent les derniers devoirs à un tel serviteur de Dieu. Nous comprenons que le deuil des saints fut grand. La victoire que l'ennemi paraissait remporter en faisant lapider Étienne enhardit les Juifs qui suscitèrent une persécution contre l'assemblée. Jusqu'ici, les apôtres seuls avaient été maltraités et l'assemblée en prospérité avait considérablement grandi, sans souffrir beaucoup de l'opposition du monde. Maintenant, elle est dispersée. Les apôtres seuls restent à Jérusalem. Saul consentait à la mort d'Étienne et assistait à sa lapidation. Il était, sans doute, un homme considéré et influent au milieu des Juifs, malgré sa jeunesse. Il ravageait l'assemblée, est-il dit, entrant dans les maisons et traînant hommes et femmes, il les livrait pour être jetés en prison. Verset 3. Satan et ses agents, en déchaînant la haine des Juifs contre les chrétiens, cherchaient à détruire l'assemblée. Mais Dieu dirigeait les circonstances vers une fin absolument contraire. Dans son discours, Étienne avait dit que le Très-Haut n'habitait point dans des demeures faites de mains. Il n'avait plus son siège à Jérusalem. Par la venue de l'Esprit-Saint, il avait pris possession de sa demeure spirituelle au milieu des chrétiens et les Juifs, pleins de rage, étaient laissés à eux-mêmes, abandonnés de Dieu comme peuple. On comprend que l'ennemi chercha à anéantir cette assemblée. Au lieu d'y parvenir, sa méchanceté ne fit que propager l'Évangile et augmenter le nombre des disciples dans les contrées voisines, en attendant de le faire pénétrer plus loin, au moyen du grand persécuteur de Jésus et des siens. C'est ainsi que Satan fait toujours une œuvre trompeuse. Ennemi vaincu, il ne peut agir que sous le contrôle du chef de l'Église qui lui a enlevé son armure. La Samarie est évangélisée, versets 4 à 13.
Lecture de la parole. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient çà et là, annonçant la parole. Et Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et les foules, d'un commun accord, étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits immondes, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Or, avant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie et étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelque grand personnage, auquel tous s'attachaient depuis le petit jusqu'au grand, disant « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la Grande ». Et ils s'attachaient à lui, parce que depuis longtemps il les étonnait par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés, et Simon crut aussi lui-même, et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe, et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement.
Lecture de l'étude. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient çà et là annonçant la parole. Verset 4. La haine qui les poursuivait ne les intimidait pas. S'ils enduraient des souffrances pour le nom de Christ, ils en appréciaient la cause et, jouissant d'un si grand bonheur, ils désiraient que d'autres le connussent. Si nous apprécions davantage la grâce merveilleuse dont nous sommes les objets par la connaissance d'un Sauveur qui nous a placés à l'abri du jugement qu'il a enduré lui-même à notre place. Si nous jouissions dans une plus grande mesure de son amour et de l'espérance vivante et glorieuse que nous avons en lui, nous aurions plus de zèle pour le faire connaître à d'autres, d'autant plus que nous n'encourons plus de persécution comme les premiers chrétiens et tant d'autres après eux. On voit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un don d'évangéliste pour annoncer à d'autres le Sauveur que nous possédons. Ce ne sont pas les apôtres qui prirent l'initiative de la prédication de l'Évangile dans les contrées environnantes, puisqu'ils restèrent à Jérusalem. Parmi les chrétiens dispersés se trouvait Philippe, un des diacres choisis pour distribuer les secours aux nécessiteux de l'assemblée à Jérusalem. Il descendit dans une ville de la Samarie et leur prêcha le Christ, est-il dit au verset 5. C'est Christ qui est le sujet de l'Évangile et l'objet du cœur qui l'a reçu. Et les foules d'un commun accord étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits immondes, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville-là, versets 6 à 8. Les sept désignés pour servir aux tables, chapitre 6, étaient des hommes pleins de l'Esprit Saint et de sagesse. Leur service avait pris fin dès la dispersion de l'assemblée, mais le Saint-Esprit dirigeait Philippe et l'avait doué pour évangéliser, comme il avait formé Étienne pour le grand service qu'il avait accompli. Le Seigneur prépare qui il veut et appelle lui-même au service qui lui plaît. Philippe se trouvait directement sous la puissance de l'Esprit pour rendre les foules attentives à la parole qu'il prêchait, confirmée par les miracles qu'il accomplissait. Seule la parole opère dans les cœurs et produit la conversion, tandis que les miracles, sans l'action de la parole, ne provoquent qu'un effet passager, comme nous allons le voir avec Simon le magicien. Les foules étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Entendre vient en premier lieu. Les miracles donnaient simplement du poids à la parole, mais ne communiquaient rien. Il y eut une grande joie dans la ville quand on vit l'activité de la grâce et le déploiement de la puissance du Saint-Esprit. Les Samaritains adoraient, ils ne savaient quoi, dit le Seigneur à la Samaritaine. étranger méprisé par les Juifs, il prétendait avoir une part aux promesses. Maintenant, une fois le mur mitoyen de clôture aboli, Éphésiens 2, verset 14, c'est-à-dire que la différence que Dieu faisait entre un juif et un gentil n'existait plus, l'Évangile appartient à tous.
Éphésiens 2, verset 14, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture.
Ils avaient le bonheur de participer aux bénédictions qui leur parvenaient en vertu de l'œuvre de Christ à la croix. Dans cette ville, il y avait un homme nommé Simon qui exerçait la magie et étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelque grand personnage, auquel tous s'attachaient. Il croyait voir en lui la grande puissance de Dieu, alors qu'il n'était qu'un vulgaire trompeur, versets 9 à 11. C'est ainsi que Satan agit au milieu des hommes. Par des moyens divers, il vise à les détourner de Dieu et à s'attirer les égards qui lui sont dus. Il placera bientôt dans le temple de Dieu, à Jérusalem, un homme qui recevra les honneurs de tous. Il émerveillera par toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. De Thessaloniciens 2, verset 9 et 10. Aujourd'hui déjà, Satan n'est-il pas plus écouté que Dieu, par grands et petits, lorsqu'il se laisse détourner des appels de la grâce par toutes les choses de ce monde qu'il s'est présenté d'une manière si attrayante pour le cœur naturel? L'apôtre Jean dit aux jeunes gens, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » 1 Jean 2, verset 15. Lorsque ceux qui admiraient ce magicien eurent cru Philippe, qui leur annonçait les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés, verset 12. Par le baptême, ces croyants professaient publiquement qu'ils acceptaient le christianisme. Ils étaient introduits dans la maison de Dieu par cette figure de la mort et de la résurrection de Christ qui mettait fin à leur vie précédente et les faisait entrer sur la terre dans un ordre de choses nouveau où Dieu habite. La bonne nouvelle que Philippe annonçait concernait le royaume de Dieu, tandis que celui où il se trouvait auparavant appartenait à Satan qu'il servait sans s'en douter. Après avoir cru Philippe, il reconnaissait les droits de Dieu sur eux et pouvait dès lors lui obéir parce qu'ils étaient nés de nouveau. Le nom de Jésus-Christ exprime tout ce qu'est cette glorieuse personne. Jésus veut dire Jéhovah Sauveur, venu dans ce monde pour délivrer les hommes du pouvoir de Satan et de la mort éternelle en leur donnant la vie éternelle. Le Christ est le Messie que les Juifs ont rejeté, mais que Dieu a fait Seigneur et Christ dans la gloire. Le Seigneur garde ce nom en rapport avec le christianisme. De là vient le nom de chrétien que l'on a donné aux disciples à Antioche, chapitre 11. Au verset 13, il est dit que Simon crut aussi lui-même, et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe. Et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. À première vue, on peut croire que Simon avait été réellement converti, d'autant plus qu'il est dit qu'il crut et fut baptisé. Il existe une foi qui est simplement affaire d'intelligence, produite par des effets extérieurs. En présence des manifestations de la puissance de l'Esprit Saint, il ne pouvait que les reconnaître et les attribuer à une autre cause que celle par laquelle sa magie étonnait le monde. En Jean 2, versets 23 à 25, il est dit que « plusieurs crurent en son nom contemplant les miracles qu'il faisait, mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait tous les hommes et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Si quelqu'un dit qu'il croit, nous devons le croire. Mais comme nous ne pouvons pas, comme le Seigneur, voir ce qui se passe dans le cœur, nous attendons les fruits de cette foi. Ils firent défaut chez Simon. Déjà, dans ce qui est dit de lui au verset 13, on discerne que l'œuvre était superficielle. Il se tenait près de Philippe, non pour écouter ce qu'il disait, mais parce qu'il jouissait de voir les prodiges et les grands miracles qu'il faisait. Les miracles ne donnent pas la vie et ne peuvent nourrir le vrai croyant. Cela vient de la parole de Dieu. Il est dit au chapitre 16, verset 14, que Lydie était attentive aux choses que Paul disait. Aussitôt après, elle produisit des fruits qui prouvèrent qu'elle possédait la vie divine. Dieu veut des réalités dans la marche et non des impressions ou l'exaltation des sentiments. Pierre et Jean viennent à Samarie, versets 14 à 25.
Lecture de la parole. Or les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus, prièrent pour eux, pour qu'ils reçussent l'Esprit-Saint, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Or Simon, voyant que l'Esprit-Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit-Saint. » Et Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part, ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté et supplie le Seigneur afin que, si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans un lien d'iniquité. » Et Simon répondant dit, « Vous suppliez le Seigneur pour moi, en sorte que rien ne vienne sur moi de ce dont vous avez parlé. » Eux donc, après avoir rendu témoignage et avoir annoncé la parole du Seigneur, s'en retournaient à Jérusalem, et ils évangélisaient plusieurs villages des Samaritains.
Lecture de l'étude. Or les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étant descendus prièrent pour eux, pour qu'ils reçussent l'Esprit-Saint, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus, versets 14 à 16. En Samarie, l'œuvre avait été accomplie, sans les apôtres, par les croyants dispersés après la mort d'Étienne, et tout particulièrement par Philippe. Mais quels que soient les moyens employés, l'œuvre, venant du Saint-Esprit, s'accomplit dans une parfaite unité. Pour la réaliser et la compléter, il fallait l'intervention des apôtres. Ainsi, tout se passe en pleine communion avec l'Assemblée de Jérusalem, la seule qui exista jusque-là. Les croyants de la Samarie avaient la vie de Dieu, et ils étaient baptisés pour le nom du Seigneur, pour le suivre dans le chemin qu'il a tracé aux siens en dehors du monde, afin qu'ils lui servent de témoin. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Les apôtres leur imposèrent les mains, verset 17, acte par lequel ils montraient publiquement qu'ils s'identifiaient avec ceux qui avaient reçu la parole et avaient été baptisés. Par conséquent, Dieu ne faisait pas de différence entre les croyants juifs et samaritains. Ils reçurent le Saint-Esprit, puissance de la vie divine dans le croyant, sceau de Dieu, par lequel il les reconnaît comme ses bien-aimés enfants, art de l'héritage. Il est dit que le Saint-Esprit n'était encore tombé sur aucun d'eux. Cela ne signifie pas que ce jour-là le Saint-Esprit descendit du ciel. Il l'avait fait le jour de la Pentecôte, mais seulement sur les croyants de Jérusalem. Il fallait l'intervention des apôtres pour que ces croyants reçussent le Saint-Esprit au début de l'œuvre en dehors de Jérusalem. Ici, c'est en faveur des Samaritains méprisés par les Juifs, comme au chapitre 10, ce sera en faveur des gentils qui, sous le régime de la loi, n'avaient aucune part aux bénédictions d'Israël. Sous la grâce, toute distinction entre les hommes est abolie. Devant Dieu, les Juifs croyants se trouvent sur le même pied que les gentils croyants, tous sauvés par le sacrifice de Christ à la croix. Ayant accès auprès du Père par un seul esprit, ils ne sont plus étrangers ni forains, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2, versets 18 et 19.
Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu.
Voir aussi versets 11 à 17.
C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, qui étiez appelés incirconcision par ce qui est appelé la circoncision, faite de main dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnances, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant la paix, et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Et il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près.
Aujourd'hui, celui qui a cru reçoit le Saint-Esprit sans l'intervention de personne, ainsi que cela eut lieu dès que, juifs, samaritains ou gentils croyants, furent entrés dans l'Église. L'apôtre dit aux Éphésiens, « Ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. » Chapitre 1, verset 13. Le cœur de Simon n'avait pas été touché par la parole de Dieu et ne s'attachait qu'aux manifestations extérieures de la puissance de l'Esprit-Saint. Voyant qu'il se donnait par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent afin d'obtenir aussi ce pouvoir, verset 18 à 20. Cet acte dévoile son état. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté et supplie le Seigneur afin que, si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans un lien d'iniquité, versets 20 à 23. Simon n'est pas droit devant Dieu. Il ne s'est pas vu dans sa présence comme un pécheur perdu auquel Dieu aurait accordé son pardon. Son acte constituait une méchanceté, comme tout ce qui provient du cœur naturel, dont il devait se repentir. L'amertume caractérise le fruit du péché. L'iniquité le liait, pour ainsi dire, mais il pouvait se repentir. Cependant, Pierre ne lui assure pas que la pensée de son cœur lui sera pardonnée. Il dit « si faire se peut ». Si nous pensons à ce qu'il en coûte pour que le Saint-Esprit descende sur un croyant, nous comprendrons la gravité du péché de Simon. Il fallut les souffrances et la mort du Seigneur afin que Dieu fût glorifié à l'égard du péché et il le montra en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite, d'où il envoya le Saint-Esprit qui scelle le croyant, délivré par la mort de Christ de tout ce qui le caractérisait comme enfant d'Adam, perdu et coupable. Comment penser qu'un don acquis à un tel prix pouvait s'obtenir avec de l'argent? Simon ne paraît nullement disposé à la repentance. Il se préoccupe plutôt d'éviter le jugement de Dieu qu'il méritait, mais sans croire. Il dit « Vous, suppliez le Seigneur pour moi, en sorte que rien ne vienne sur moi de ce dont vous avez parlé », verset 24. C'est bien ce qui caractérise le cœur de l'homme sans droiture devant Dieu. Il cherche à éviter les conséquences du péché actuel sans confesser ses fautes pour en obtenir le pardon éternel. On voit cela chez Caïn lorsqu'il entendit la sentence de l'Éternel contre lui. Il dit « Mon châtiment est trop grand pour que j'en porte le poids » et il cherche à mettre sa vie en sûreté. Genèse 4, versets 13 et 14.
Et Caïn dit à l'Éternel « Mon châtiment est trop grand pour que j'en porte le poids. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de dessus la face de la terre, et je serai caché de devant ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. »
L'homme voudrait ne pas souffrir sur la terre, mais il ne se préoccupe pas de se mettre à l'abri des souffrances éternelles, lors même que Dieu lui en offre le moyen gratuitement. Pierre et Jean annoncèrent la parole et retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. L'œuvre de Dieu était commencée en dehors de la Judée, en plein accord entre les apôtres et ceux que le Seigneur avait employés en Samarie. Conversion de l'eunuque d'Éthiopie, versets 26 à 40.
Lecture de la parole. Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant « Lève-toi, et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Et lui, se levant, s'en alla. Et voici un Éthiopien eunuque, homme puissant à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem sans retourner. Et il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins-toi à ce char. » Et Philippe, étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Ésaïe. Et il dit, « Mais comprends-tu ce que tu lis ?» Et il dit, « Comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit ?» Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre point sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté, et qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque répondant dit à Philippe, « Je te prie. « De qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre ?» Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et il donna l'ordre qu'on arrêtât le char, et ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque. Et Philippe le baptisa, et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux. Mais Philippe fut trouvé à Azo, et en passant au travers du pays, il évangélisa toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée.
Lecture de l'étude. Un ange du Seigneur parla à Philippe disant « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Verset 26. Le Seigneur dispose de plusieurs moyens pour diriger ses serviteurs. Nous en verrons plusieurs exemples au chapitre 16 avec l'apôtre Paul. Ce qui importe, c'est que le serviteur les discerne et obéisse. Philippe avait un beau champ de travail en Samarie. Il paraissait tout indiqué pour y travailler encore. Mais l'ange, sans autre explication, l'envoie loin de là sur un chemin désert. Philippe obéit et trouva bientôt le travail à accomplir. Annoncer l'évangile, non à une foule, mais à un seul homme. Un eunuque éthiopien, puissant à la cour de la reine Candace et intendant de ses trésors, était venu adorer à Jérusalem. Il s'en retournait et, assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. À ce moment, Philippe survint. L'Esprit lui dit, « Approche-toi et joins-toi à ce char, versets 27 à 29. » Philippe accourut et entendit l'eunuque qui lisait les versets 7 et 8 du chapitre 53. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau, muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre point sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté, et qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. L'eunuque pria Philippe de monter s'asseoir à ses côtés et lui dit « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre ?» Tout était préparé pour que le serviteur de Dieu n'eût qu'à parler. Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus, versets 30 à 35. Cet homme pieux, prosélyte ou juif de naissance, était venu adorer le vrai Dieu à Jérusalem. Il y avait dans son âme de vrais besoins qui ne pouvaient trouver satisfaction à Jérusalem, car le Dieu qu'il venait adorer en avait été chassé dans la personne de son fils mis à mort. La maison restait déserte, avait dit le Seigneur en Matthieu 23, verset 38.
Voici votre maison vous est laissée déserte.
Mais si la présence de Dieu ne se trouvait plus à Jérusalem dans son temple, sa parole demeurait. Elle parlait des souffrances de Christ et des gloires qui suivraient. 1 Pierre 1, verset 11. Dieu veillait sur cet étranger et lui envoya celui qui pouvait lui faire connaître Jésus, dont Ésaïe parlait dans ce chapitre, où il décrit son rejet, son humiliation, ses souffrances et les résultats de sa mort. Il a été ôté de l'angoisse et du jugement. Il a été délivré de la mort, il a donc une génération ou une famille. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, est-il dit, il verra une semence, il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. En entendant Philippe, l'eunuque comprit que c'était de Jésus que parlait le prophète, qu'il était venu dans ce monde pour lui, qu'il avait souffert pour lui, et que, si lui croyait en Jésus, il ferait partie de cette semence, qu'il serait un des fruits du travail de son âme. Il s'appropria la valeur de la mort du Sauveur. Aussi voulut-il être aussitôt un témoin de Christ sur la terre. Comme ils arrivaient près de l'eau, il dit à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il avait compris que la mort de Christ le séparait désormais de tout ce qui marquait son état précédent et l'introduisait dans un état entièrement nouveau. Il tenait à déclarer publiquement, par le baptême, qu'il était un chrétien, disciple de Christ, et non pas seulement un adorateur du vrai Dieu en contraste avec les idolâtres. Ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux, versets 38 et 39. Cette disparition mystérieuse ne pouvait distraire l'eunuque, il possédait Jésus. Il emportait avec lui la source d'une joie éternelle, et connaissait Dieu comme un Père qu'il pouvait adorer en esprit et en vérité, où qu'il se trouvât, sans avoir besoin de venir à Jérusalem, le seul lieu où l'on rendait culte à Jéhovah. Aussi, il s'en allait tout joyeux, emportant avec lui un trésor éternel. Il est permis de croire que cet homme, une fois rentré dans son pays, parla à d'autres du bonheur qu'il possédait, car on décèle en Abyssinie, Éthiopie d'alors, des traces du christianisme, comme aussi des restes du judaïsme, importés probablement par la reine de Sheba au temps de Salomon. Une fois arrivé là où toute l'œuvre de Dieu sera manifestée, nous verrons sans doute de glorieux résultats de ces deux voyages. Philippe se trouva à Azoth, l'ancienne Asdod des Philistins, au bord de la Méditerranée, où l'arche de l'Éternel avait été portée dans le temple de Dagon, 1 Samuel 5. Il évangélisa toutes les villes de la contrée jusqu'à Césarée, ce qui comprend une bonne partie du littoral de la mer. Ce chapitre nous raconte ainsi le début de l'évangélisation du monde en dehors de Jérusalem, accompli non par les apôtres, mais par Philippe et par de simples croyants. Nous verrons, au chapitre suivant, la conversion du grand apôtre des nations, qui entrera bientôt en scène, maintenant que l'œuvre en dehors de Jérusalem a commencé, et que les Juifs, comme nation, sont rejetés, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée au ciel. Alors Dieu reprendra ses relations avec son peuple terrestre.